Bonjour à tous, nous sommes dimanche, il est 13h, bienvenue dans Affaires Suivantes. Ravi de vous retrouver avec mon complice Dominique Rizet.
Bonjour Pauline, bonjour
à tous. Au programme cette semaine, le décryptage de la mort de Quentin Derenck. Après la marche de l'ultra-droite organisée hier dans les rues de Lyon, pas d'affrontement, mais des signalements après des insultes racistes et des saluts nazis. Qui composait ce cortège? Quels étaient les slogans? Quels sont les foyers encore actifs de l'ultra-droite en France? Et puis, notre deuxième affaire, Dominique.
Oui, l'onde de choc des dossiers Epstein, Pauline, se propage dans le monde entier et touche maintenant la monarchie britannique à travers l'ex-prince Andrew. Nous allons plonger ensemble dans le dossier Brunel, c'est la partie française de l'affaire Epstein. Et dans le cadre judiciaire ouvert par le parquet de Paris cette semaine, nous allons revoir ce dossier entouré de nos spécialistes.
Affaire suivante, ne bougez pas, ça démarre dans un instant. Bonjour à tous, on va essayer de décrypter ensemble la mort de Quentin Derenck et ses suites judiciaires et politiques. Quentin Derenck, 23 ans, militant identitaire, lynché à mort jeudi dernier dans les rues de Lyon par des militants antifascistes en marge d'une conférence de presse donnée à Sciences Po par l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Hier, Lyon a été le théâtre de toutes les attentions sécuritaires. D'abord, la marche d'hier et les suites judiciaires de la mort de Quentin, sujet de Pierre-Louis Bousset.
C'est sous les chants et les slogans que s'était lancée hier la marche pour Quentin Derenck. Parmi les participants, de très nombreux militants nationalistes et d'extrême droite. Un rassemblement sous haute tension, une semaine après la mort du jeune activiste identitaire. À ce stade de l'enquête, 7 personnes ont été mises en examen et interrogées par les enquêteurs.
2 d'entre elles refusaient de s'expliquer, sur les faits notamment. Les autres reconnaissaient leur présence sur les lieux. Et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Derenck ou et à d'autres victimes.
En revanche, tous contestent avoir eu l'intention de tuer le militant identitaire. Parmi les suspects, un nom retient particulièrement l'attention, celui de Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud. Il est soupçonné de complicité de meurtre par instigation. Également parmi les suspects, un homme, Alexis C., déjà connu des services de police. Il avait été mis en examen en juin 2024 pour une affaire d'agression antisémite sur un adolescent. Sur les 7 suspects, 6 sont mis en examen pour homicide volontaire et encourent jusqu'à 30 ans de prison. La famille de Quentin Derenck souhaite que les faits soient qualifiés du chef de meurtre en bande organisée.
1, il y a eu des repérages, visiblement. 2, il y a eu des complicités. 3, il y a eu des repérages avec des individus en scooter qui cherchaient des personnes isolées. 4, il y a vraisemblablement utilisation de messagerie cryptée.
Si ce chef d'accusation est retenu par la justice, les suspects pourraient alors encourir la réclusion criminelle à perpétuité.
Alors avec nous, j'accueille en plateau Paul Conge, journaliste PJ de BFM TV. Merci Paul d'être avec nous. Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être avec nous aussi. Et maître Christophe Carion-Martin, avocat de la famille Aramburu. Alors d'abord, Lyon hier, théâtre de cette marche de l'ultra-droite organisée par des proches de Quentin Derenck. À quoi ça ressemblait, Paul? Vous avez pu vous naviguer, si je puis dire, dans cette marche. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Et on rappelle en parallèle qu'il y a 3 signalements qui ont été faits par la préfète de Lyon pour des saluts nazis et des insultes racistes.
Oui, absolument, c'est vrai qu'on a pu traverser la foule hein, en long, en large et en travers. Ce qui frappait, c'est que, alors bien sûr, il y avait beaucoup de petits groupuscules radicaux qui étaient reconnaissables vraiment à leur tenue vestimentaire. Ils étaient vêtus tout de noir, ils avaient des cache-coups remontés, parfois des casquettes, des cagoules aussi, des lunettes de soleil, mais pas de logo d'organisation visible. Ça, on pouvait en chiffrer, je pense, quelques centaines, peut-être un millier, mais la foule ne s'arrêtait pas à ça. Il y avait aussi vraiment même des familles qui étaient présentes. On a vu des personnes qui étaient à la messe auparavant, aussi en hommage à Quentin Derenck.
Il y avait un élu LR aussi,
Il y avait aussi un élu LR, absolument. Mm. Et puis des Lyonnais dont on ne peut pas vraiment présupposer de l'appartenance politique. Mm-hmm. Ce qui fait qu'aussi la foule était estimée à 3200 personnes. 3200 personnes, c'est l'estimation, c'est la fourchette haute de ce que représente l'ultra-droite en France aujourd'hui. Donc c'était clairement pas toute l'ultra-droite. Ensuite, on peut quand même remarquer 2 choses. C'est qu'on a aperçu quelques leaders ou anciens leaders d'extrême droite, par exemple Yvan Benedetti, le fondateur de l'œuvre française, qui est un groupe pétainiste dissous après la mort de Clément Méric, un militant antifasciste tué cette fois par l'extrême droite. On a pu apercevoir aussi le leader néo-nazi Marc de Cacré-Valmenier, bien connu, qui a eu beaucoup de démêlés judiciaires, et aussi un service d'ordre qui encadrait cette marche, qui était très offensif, notamment avec les journalistes. C'était le même service d'ordre, à peu de choses près, que celui du comité du 9 mai. C'est une marche, une parade quasi paramilitaire qui a lieu tous les ans à Paris, et on les a assez facilement reconnus. Ce qui frappe juste aussi beaucoup, c'est les slogans, c'est ce qui était entonné dans le mégaphone.
Alors qu'est-ce qu'on entendait?
Eh bien, il y avait des choses. Au départ, c'était des hommages à Quentin. C'était des, disons, des
justice pour Quentin.
Il y a aussi LFI assassin, Antifa assassin. Mais après, la tonalité a été beaucoup plus politique, enfin plus idéologique, j'ai envie de dire. On entendait un leader nationaliste révolutionnaire dire « On va reprendre ce pays, on est chez nous, ce pays nous appartient ». Il y a vraiment une vocation très très politique derrière tout ça, et ça crée vraiment un moment tout de même très très tendu à de nombreuses reprises, des moments très tendus dans la manifestation.
Mais on le rappelle, il n'y a pas eu d'affrontement direct.
Non.
La soirée a été calme. Non, il y a eu une interpellation à la marge.
Des petites provocations à la marge de la manifestation.
Paul, est-ce que de très bonnes tenues sécuritaires.
On l'a bien vu, nous, on l'a dit sur le plateau. On a dit bon, c'est pas normal. Les journalistes sont écartés, ils peuvent pas travailler. On a vu un type devant qui mettait en permanence sa main, à visage découvert, sa main devant les caméras.
Oui.
Vous faites plein de manifs, vous avez écrit un bouquin extrême gauche, extrême droite. Est-ce que dans les autres manifs d'extrême gauche, ça se passe pareil? Enfin, s'il y a pas de manif d'extrême gauche, mais quand l'extrême gauche est dans des cortèges, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on est des journalistes?
Vous avez raison, la comparaison est intéressante. Pour le coup, là, ce cortège était quand même relativement discipliné par rapport à une manifestation d'extrême gauche. Parce que quand on suit des manifestations d'extrême gauche, ou alors noyautées par l'extrême gauche, parce que c'est plutôt ça qui se passe,
oui,
avec un black bloc,
ouais,
qui se constitue à l'avant, hein,
En
tête de cortège, généralement, là, on est vraiment très très mal accueilli, voire violenté, voire agressé. Ça, c'est arrivé, ça m'est arrivé personnellement, et c'est arrivé à beaucoup de confrères. Donc là, pour le coup, autant effectivement le service d'ordre était particulièrement véhément envers nous, autant on n'a pas été agressé physiquement.
Alors Jean-Yves Camille, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans les images d'hier? Et est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre la géographie et Lyon? Est-ce que c'est un terreau connu de l'ultra-droite en France?
Alors c'est un terreau connu depuis le début des années 2010 pour être un lieu de conflictualité violente.
Donc des deux côtés, des deux bords.
Répertoriés relativement fréquents, y compris l'usage d'armes blanches, avec des condamnations qui sont régulièrement prononcées, avec des dissolutions de mouvements qui ont aussi été prononcées contre des groupes d'ultra-droite et contre d'ailleurs un groupe d'ultra-gauche. Mais moi je fais très attention à ne pas essentialiser une ville. Je rappelle tout de même qu'à la tête de cette ville, il y a un maire de gauche, qu'avant celui-ci, c'était un autre maire de gauche,
Gérard Collomb,
et que à l'époque où Michel Noir dirigeait la ville, eh bien Michel Noir était parmi les gens de son camp politique, l'un de ceux qui montait au créneau le plus fort contre à l'époque le Front National. Donc faisons attention. Il y a quelque chose que je n'arrive pas très bien à discerner, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans le traitement policier, administratif de cette montée en violence, il y a eu ou pas une sorte de un loupé qui a empêché que quelque chose vienne stopper le passage à l'échelon supérieur.
Est-ce qu'à un moment vous sentez la bascule? Est-ce qu'il y a eu un moment où on n'a pas vu quelque chose? Il y a une époque.
C'est un engrenage. Vous parlez d'un engrenage pour bien comprendre.
Non, je ne parle pas d'un engrenage. Je dis que vous savez, il faut se mettre quelque chose dans la tête de manière définitive. Dans une démocratie libérale, les deux radicalités politiques ne seront jamais éradiquées.
Bon, c'est pour cela
qu'il y a un gros malentendu sur l'effet d'une dissolution. Une dissolution, c'est un coup de pied dans la fourmilière, ça écarte des gens, généralement du second cercle, c'est embêtant financièrement, c'est embêtant pour les leaders, mais si on fait le bilan des groupes dissous et qu'on regarde est-ce qu'ils se sont reconstitués ou pas, oui, dans la majeure partie des cas, et on ne peut pas y faire grand-chose, d'abord parce que les peines qui punissent le délit de reconstitution des dissous sont des peines légères et non dissuasives.
Alors là, pour qu'on comprenne bien, vous voulez pointer quelle dissolution? Parce qu'il y a la dissolution de la Jeune Garde en juin 2025. Paul, je parle sous votre contrôle.
Je parle des dissolutions de groupes d'ultra-droite en particulier, qui en fait n'ont pas...
Il y a eu huit dissolutions de groupuscules d'ultra-droite depuis 2019, depuis Génération Identitaire. Il y en a eu une floraison d'autres ensuite. Ouais. Il y a eu les Remparts, il y a eu Lyon Populaire.
Les Remparts, c'est à Lyon, c'est ça.
Absolument.
Lyon Populaire, il faut quand même, dans une certaine mesure, reparler de la dissolution de l'œuvre française en 2013. Parce que à l'époque, un certain nombre des dirigeants de l'œuvre française, dont certains qu'on a vu réapparaître hier, sont lyonnais, de la conurbation lyonnaise.
Oui, donc ils vont bien.
Donc ça les atteignait aussi. Mais à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas empêcher des gens de continuer à se reformer. Et on n'a pas en France, et ça c'est assez regrettable, de dispositifs qui permettent d'accompagner les militants des deux familles politiques radicales vers la sortie.
Une fois que la dissolution est prononcée...
Non, avant.
Avant.
En Scandinavie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, existe ce qu'on appelle des programmes exit. Un programme exit,
c'est un
programme qui repose sur le fait qu'à un moment donné, un généralement jeune prend contact et dit « Bon, voilà, moi, je pense que là, c'est le moment que je sorte ». Mais on sort pas comme ça, on rompt pas comme ça des liens qui sont politiques, mais qui sont aussi des liens de sociabilité.
Donc c'est un accompagnement
à retourner à une vie normale en dehors de la radicalité.
Est-ce que ça marche?
Ça marche pas mal, ça marche d'ailleurs, ça s'applique à tous les militants radicaux, hein, y compris les islamistes radicaux, alors là voilà. C'est plus compliqué.
Est-ce que c'est de la déradicalisation? C'est ça?
Écoutez, pour moi, l'important... c'est la neutralisation du potentiel violent. Ensuite, ce que les gens continuent à penser dans leur tête et dans leur salon...
Ça leur appartient.
Mais l'essentiel, c'est d'arrêter la violence qui peut mener à l'extrême que l'on vient de voir. Je connais des gens qui sont réellement sortis, qui ont fait un travail de retour sur eux-mêmes, d'analyse de leur engagement, qui ont pris conscience des raisons qui les avaient menés là.
Jean-Yves, ça se passe pas simplement en vieillissant, en grandissant. Comme des voyous qui un jour fondent une famille et puis changent de vie.
Alors c'est un des facteurs effectivement, la fondation d'une famille, le mariage, l'accession aussi à un poste où on se dit bon, j'ai des perspectives de carrière, je vais peut-être pas quand même les saboter définitivement. Et puis des fois c'est aussi une réflexion, une vraie réflexion avec des gens qui se disent je me suis trompé en fait. Je suis pas du côté normal de la barrière. Mais si on ne fait pas un effort pour encadrer cela, parce que ça nécessite un suivi administratif, psychologique, ça nécessite de sortir, y compris géographiquement, les gens de ce milieu, de les aider à avoir un emploi, ça nécessite effectivement de leur fournir, de les aider à trouver un emploi qui leur assure
un peu. C'est-à-dire que ces gens-là, ils bossent pas?
Est-ce qu'il y a des profils types? Est-ce qu'on peut essayer de brosser un grand trait,
Ils travaillent, mais l'objectif, c'est aussi de les sortir du travail dans la mouvance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, la mouvance produit un nombre incalculable de vendeurs des marques de vêtements dont on a parlé tout à l'heure. Bon, il faut sortir du micro-milieu. Si vous devenez tatoueur, ce qui est un truc assez fréquent aussi, et que vous continuez à avoir des clients qui appartiennent, peut-être pas majoritairement, mais en grande partie à votre mouvance, et qui viennent se faire tatouer des trucs assez particuliers, il faut, à un moment donné, vous permettre de sortir du truc. Parce que sinon, vous êtes pris dans un réseau de sociabilité dont vous avez énormément de mal à sortir. Parce que ces gens sont aussi en recherche de sociabilité.
Et quand est-ce que commence le point de bascule? Quand est-ce que ces jeunes, ils entrent dans ces idéologies-là? Est-ce que c'est dès le collège, dès le lycée? Il y a des points d'entrée qu'on a repérés?
C'est très variable. Vous avez des gens qui rentrent tôt, dès l'adolescence, ou du moins la période du jeune adulte. Et vous avez ce phénomène extrêmement intéressant des personnes ayant dépassé la cinquantaine, voire plus, qui se retrouvent engagés dans un certain nombre de groupes dont les actions ont déjà été judiciarisées, hein, notamment les Barjols, notamment les Faux, enfin voire le monsieur qui détenait à Châteauroux un véritable arsenal et qui avait 78 ans. Je rappelle que lorsqu'à Bayonne, un homme tire, il est décédé aujourd'hui, un homme tire il y a quelques années sur deux Chibanis qui sont paisiblement devant la mosquée de Bayonne. Petit 1, il a 82 ans. Petit 2, il a fait de la politique. Et petit 3, quand la BRI intervient, il tire.
Oui.
Ce qui dénote quand même un degré de
détermination
qu'on ne trouve pas nécessairement à cela.
Ça nous amène, maître, à l'affaire à Rambourou. Donc, on en parlait, on la met dans toutes ces affaires de l'extrême droite. Hein, c'est un meurtre.
Alors, on va le rappeler d'abord, Federico Aramburu, il a été abattu par deux militants d'ultra-droite sur le boulevard Saint-Germain, c'était le 19 février 2022. Et vous, vous défendez la famille de Federico Aramburu.
Et moi, pardon, maître, avant de vous laisser répondre, moi, je dis depuis des jours sur ce plateau que pour moi, c'est pas un meurtre raciste, que c'est un meurtre de, pardon, pour l'expression, parce que, de gars qui ont bu, qui ont picolé, qui s'embrouillent à 4-5 heures du matin et que c'est malhonnête pour moi de mettre ça dans des crimes racistes, alors que les crimes racistes existent en France. Hein. On est vraiment clair là-dessus. Alors, je me trompe pas. Qu'est-ce que j'ignore du dossier? Qu'est-ce que je dois en apprendre?
Alors, je suis l'avocat d'abord de Sean Hegarty, qui était l'associé et ami de Federico Martín Aramburu. Mais je représente aussi, parce que la défense est commune, la famille aujourd'hui et mon confrère Yann Lebraz, ma consoeur Véronique Massy, avec qui nous travaillons sur ce dossier. L'affaire de Federico Martín Aramburu, un peu peut-être comme ce que découvrira l'affaire ici, c'est qu'elle va avoir plusieurs temps. Il y a à voir, effectivement, ce que vous dites, et ce qui est repris notamment par d'autres personnes, qu'il y a une bagarre de bar. Cette bagarre de bar, elle se fait au Mabillon.
C'est la première séquence.
Au Mabillon, devant le Mabillon.
Un café sur le boulevard Saint-Germain.
Exactement. Et les videurs du Mabillon, les serveurs du Mabillon interviennent, séparent.
Fin de l'histoire.
Ce qui aurait été l'idéal. Sauf que c'était sans la détermination, ni les menaces, ni la détermination de Loïc Le Priol, Romain Bouvier, qui vont partir à la recherche de Federico Martín Aramburu et de Sean Hegarty, armés, et avec ce qui se passera derrière, c'est-à-dire la multitude de balles reçues, c'est-à-dire que les deux vont vider leur chargeur sur Federico Martín Aramburu.
Mais à quel moment ça devient raciste?
Il n'a jamais été question de raciste. Et un crime raciste, c'est une circonstance aggravante. Ouais. D'ailleurs, le débat aujourd'hui est un peu difficile parce qu'on parle de mobile politique. Nous, avocats, magistrats, le mobile politique, on n'en hérite pas. Il y a des circonstances aggravantes d'un homicide, qui sont celles liées à la religion, au sexe, mais au racisme, mais c'est tout. Le mobile politique dont tout le monde débat aujourd'hui, il n'existe pas en droit. Et finalement, le droit qui va venir devoir réparer cette affaire...
Juste une question.
Le mobile raciste n'est pas ça. Ce qu'il y a eu, par contre, c'est que immédiatement, ce qui a frappé tout le monde, c'est que les personnes qui étaient impliquées en termes d'auteur, c'était des personnes qui avaient été, et je l'ai toujours dit, biberonnées aux thèses d'extrême droite ou de...
Voilà. Écoutez-moi, on revient dans un instant. Non, pas de questions, parce qu'on va partir en pub, on revient dans un instant. Et on y revient parce qu'aujourd'hui, vous dénoncez une asymétrie entre la récupération politique aujourd'hui et le silence assourdissant il y a 5 ans au moment de la mort de Federico Aramburu. On y revient dans un instant. 13h30, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'affaire suivante. On évoque avec maître Christophe Cariou-Martin, avocat de l'associé de Federico Aramburu, la mort de cet ex-rugbyman argentin. C'était le 19 février 2022. Au regard de ce qui s'est passé depuis 8 jours et de la mort de Quentin Durang, vous dénoncez, vous, aujourd'hui, maître, une asymétrie. Expliquez-nous pourquoi.
Non, je dis que c'est monstrueux. Je dis que c'est monstrueux parce qu'un monstre, c'est ce qui n'est pas conforme et ça fait peur. Et ce qui est en train de se passer avec les deux pôles politiques qui essayent de mettre ce crime dans le cadre de la discussion, mais en fait, ça fait peur. Pourquoi ? C'est pas conforme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les politiques, on leur demande d'agir. Et ça fait 4 ans, au moins, et même avant avec l'affaire de Clément, qu'ils n'agissent pas.
Clément Méric.
Et nous, ça fait 4 ans qu'on demande, notamment, que les armes à poudre noire de catégorie D, qui sont accessibles avec une simple présentation d'une pièce d'identité, alors que vous êtes fiché S, alors que vous avez un casier judiciaire avec violence avec arme, alors que vous êtes en récidive, puisse être accessible à tous. C'est une loi qui est simple à prendre. Le gouvernement a agi par arrêté sur les munitions et ne veut pas passer à la loi parce que peut-être il n'y aurait pas suffisamment de précédents. Ce qui est, moi, me glace.
Arme qui avait été utilisée par un terroriste à Strasbourg. Arme à poudre noire aussi.
Et je crois que certains de journalistes présents ici savent l'utilisation de ces armes à poudre noire, notamment dans ces crimes-là. Et ça, c'est ce qui n'est pas conforme. Aujourd'hui, arrêtez de parler. Arrêtez de vous opposer. Agissez. Empêchez le futur. Nous, en justice, en avocat, en magistrat, on récupère tous ces malheurs. Vous croyez que la mère de Federico et la mère de Clémence, si elles se rencontrent un jour, elles vont dire quoi? La mère de Quentin, elles vont me dire quoi? Elles vont parler des armes? Elles vont parler de quoi? Elles vont dire, mais pourquoi j'ai perdu un fils?
On entend bien.
C'est vraiment ça, c'est arrêter de parler. Ça fait peur à tous les Français. Ils en ont marre. Bien sûr, vous allez vous battre pour les municipales. Bien sûr, vous allez vous battre pour les législatives et les présidentielles. Mais agissez,
vous pensez
protéger nos enfants.
Vous pensez que les politiques vous entendent, maître ?
Je sais pas, ça fait 4 ans qu'on frappe à toutes les portes.
Bah, au moins, le message
Payot Dufaux, le député, le porte aujourd'hui sa proposition de loi, qui était portée avant par Florence Lasserre, par Éléonore Carrois, ce qui montre bien que c'est une problématique qui est transpartisane.
Mais il faut s'en servir.
Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on sait qu'il y a des pensées, et je ne suis favorable à la liberté d'expression, à la liberté d'association, il n'est pas question d'y toucher. Mm-hmm. D'accord? Je suis avocat, je milite pour l'état de droit, pour la démocratie. Par contre, la matérialité de la violence, on peut l'éviter. Et la matérialité de la violence, on l'évite comment? Peut-être en modifiant l'organisation des manifestations, où on laisse aux manifestants le soin de choisir leur propre ordre de sécurité. Mmh. Ce qui, là, au lieu de mettre les gens dos à dos, les met face à face. Face à face, il y a des morts. Et puis, il y a ces armes qui sont accessibles par tous et qui font partie aussi d'un endoctrinement et qui font partie de ce qui est distribué dans certains groupuscules, comme comment s'armer légalement.
Quand vous parlez d'armes, vous dites qu'il y a des gens qui connaissent sur le plateau. Moi, je connais ça par cœur. Hein. Et j'avais jamais vraiment réfléchi à cette question. Effectivement, de temps en temps, on entend parler. C'était une arme à poudre noire. Strasbourg, le terroriste, l'affaire Armourou, aidé. Et en fait, il y a des armes, pour ceux qui nous écoutent, qui sont détenues légalement,
exactement,
catégorie B, par des gens qui sont dans des clubs de tir. Et puis, il y a des armes qui s'achètent, des armes à poudre noire. On les charge de la poudre, on met un plomb, on ferme avec un opercule. Et donc, ça, c'est effectivement...
Aujourd'hui, il y a des reproductions d'armes historiques dont les brevets sont intérieurs à 1900, qui sont fabriquées en 2023-2025, disponibles, qui tuent. Vous avez des démonstrations sur les réseaux sociaux de savoir comment on les fonctionne.
Oui.
Donc, agissez, prenez cette loi.
On a bien entendu.
Il y a un trou dans la raquette qui est monumental.
Ouais. Ok. Paul, je voulais rajouter quelque chose.
Non, pas spécialement sur cette question-là, mais en tout cas,
il y a une petite
distinction que faisait Dominique tout à l'heure entre crime raciste et crime d'extrême droite. Mmh. À vrai dire, c'est pas parce qu'un crime est raciste qu'il est automatiquement d'extrême droite.
On en est d'accord.
Et qu'on peut juste compter les crimes d'extrême droite sans forcément se baser sur la composante raciste.
Alors, simplement, moi, dans le temps qui nous est imparti, on a parlé des gens qui avaient défilé hier. J'aimerais qu'on parle des gens qui sont incarcérés après la mort de Quentin Durand. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ignorent leur pédigré? Comment on définit la jeune garde, groupuscule d'extrême gauche qui a été dissoute en juin 2025, et dans ceux qui ont été incarcérés, combien appartiennent à la Jeune Garde, Paul ?
D'accord, alors très clairement, la Jeune Garde, c'est une organisation, un groupuscule, on va dire, antifasciste, qui est né en 2018 à Lyon, notamment sous l'impulsion de Raphaël Arnaud, qui à l'époque est militant antifasciste et pas encore député de la France Insoumise. Au plus haut, cette organisation rassemble 200 personnes avec des antennes à Paris, à Strasbourg et donc essentiellement à Lyon. Elle est engagée depuis quelques années dans des confrontations directes avec des groupes d'extrême droite, des violences de rue notamment. On a aussi d'autres affaires qu'on a évoquées sur cette antenne. Bruno Retailleau a souhaité, ministre de l'Intérieur l'année dernière, a souhaité la dissoudre. Elle a été dissoute. Maintenant, il y a un recours qui est pendant devant le Conseil d'État. Les avocats de cette organisation veulent ne revenir sur cette dissolution.
On a bien compris qu'avec ce qui venait de se passer, le recours est déjoué.
Ça paraît compliqué aujourd'hui.
Voilà.
Alors, de fait, on a effectivement parmi les personnes mises en cause dans le meurtre de Quentin Durand, on a au moins on a identifié 4 personnes qui gravitent dans la mouvance de la Jeune Garde. Bien sûr, le collaborateur parlementaire du député Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau. Il y en a 3 autres qui appartiennent ou qui ont été proches de ce groupe.
Celui qu'on a vu dans ce sujet,
Alexis C, il en fait partie, tout à fait.
Jean-Yves Camille, en quoi c'est symptomatique de notre époque, cette violence et cette exaspération des deux camps? Est-ce qu'il y a deux France qui s'affrontent finalement, l'ultra-gauche et l'ultra-droite, ou est-ce que c'est beaucoup trop schématique de dire ça?
Alors c'est un peu schématique de dire ça, parce que si on additionne les deux mouvances par rapport à nos 68 millions d'habitants,
on est loin du coup.
On est aux marges politiques. Mm-hmm. On n'est pas non plus dans un contexte de stratégie de l'attention à l'italienne, années 70, années 80, parce que la situation géopolitique est pas la même, enfin pour des quantités de raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici. Mais on a clairement deux mouvances qui considèrent que l'adversaire ne fait pas partie de la même maison France. C'est-à-dire que ces gens considèrent que l'autre est un ennemi, il n'est pas un concitoyen qui a des opinions diamétralement opposées.
Il est l'autre.
il est l'autre. Chacun a son mode d'anathème. Hein. Vous êtes des gauchistes woke altermondialistes, vous êtes des nationalistes fascistes, la bête immonde, etc. Mais ces gens, très clairement, ne considèrent plus que le débat politique dans ce pays doit se régler uniquement par la voie des urnes.
Ça me fait penser à un slogan qui est entonné hier pendant la manifestation. J'entendais Mélenchon anti-France. Et ça, je trouve ça vraiment écho à ce qu'on est en train de se dire. C'est, on considère donc que l'adversaire, finalement, ne fait pas partie de la même communauté politique, de la
elle
même,
est déjà exclue,
de la même nation.
Ouais. Ouais. De la même communauté humaine. Oui, de la même communauté humaine. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai connu une forme de violence qui était codifiée et où il n'était pas question, je crois, chez les protagonistes, d'attenter à la vie d'un homme, de tuer un homme. Alors, des bagarres politiques, il y en avait régulièrement. C'est une très vieille tradition.
Mais c'est quand la bascule pour vous?
C'est une bascule générationnelle.
C'est une bascule générationnelle
avec la fin des mouvements d'extrême-gauche traditionnels. Je rappelle quand même que dans les années 70-80, la gauche prolétarienne, mouvement maoïste, décide à un moment donné, après quelques faits d'armes comme l'enlèvement du DRH de la régie Renault, par exemple, que finalement, il faut pas passer à la violence homicide. On est sur un trajet inverse de ce qui s'est passé en Italie. Et puis, du côté de l'extrême droite d'alors, on avait des gens qui étaient motivés très largement par l'anticommunisme, par le climat de l'époque, par le fait que c'était quand même dans les universités tout ce qui était à gauche qui tenait le haut du pavé. Et eux étaient plus marginaux. Et puis, à un moment donné, ces gens ont eu des parcours professionnels, des parcours de vie qui a fait sortir la plupart d'entre eux du circuit.
Jean-Yves, est-ce que vous diriez que l'extrême gauche d'aujourd'hui, elle est l'héritière des maoïstes, des trotskistes, de la Ligue communiste révolutionnaire, ou d'Action directe, ou de l'héritière de
non.
qui, ou de personne?
Non, elle est comme ça parce qu'elle est de notre société. Intellectuelle.
Ouais.
Et qui nuit énormément à la cause qu'elle prétend incarner, et à la cause de la révolution sociale qu'elle prétend incarner, c'est de considérer que le fascisme est partout. C'est-à-dire que finalement, Madame Panot disait tout à l'heure, la République s'est construite contre le fascisme. Alors, est-ce que le maréchal de MacMahon était fasciste? Parce que la République, c'est quand même
1875. Elle n'a pas les références.
Non, mais si des membres de la représentation nationale n'ont pas ce type de référence, que pour ma part, j'ai appris dans le secondaire, il y a quand même un problème énorme de déperdition de connaissances et de déperdition de sens. Le fascisme, je ne dis pas qu'il n'existe plus, il est marginal. Nous ne vivons pas dans un pays occupé par l'armée nazie et personne ne risque sa vie en décollant nocturnement une affiche ou en taguant quelque chose. On n'est pas à l'époque de l'affiche rouge. Mais il y a, me semble-t-il, chez certains esprits, une manière de se sentir orphelin de cette période. C'est-à-dire que finalement, ces gens voudraient être des héros de la résistance. Ils ne sont que de petites frappes.
Merci. Merci beaucoup pour vos éclairages, vos analyses, tous les trois. Merci beaucoup pour clôturer cette discussion. Sachez que la France va convoquer l'ambassadeur américain, c'est ce qu'annonce le ministre des Affaires étrangères, pour un tweet. Tweet que vous allez lire à l'instant. L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Durand démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique. Résultat, cet ambassadeur est convoqué lundi au Quai d'Orsay. Écoutez le ministre des Affaires étrangères.
Nous allons convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France, puisque l'ambassade des États-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame, dont je rappelais tout à l'heure qu'il concerne la communauté nationale. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française.
À des fins
politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, de la place qui occupe la violence et des violences plus généralement, nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent.
Le dossier Epstein à présent et le volet français. 3 semaines que ce dossier, ou ces dossiers plutôt, inondent la planète. L'onde de choc de cette fin de semaine, c'était jeudi, l'arrestation de l'ex-prince Andrew et son interrogatoire pendant 10 heures. Mais la France n'est pas épargnée, loin de là. Pour en parler avec nous, j'accueille Vincent Ventigem, grand reporter PJ du service de BFM TV, Mathias Darmon, avocat d'Innocence en danger. Bonjour. Et Sir Andrew Simpkin, j'espère que je prononce bien.
J'adore le titre, je prends.
Ok. Président de la Royal Society of Saint-Georges, merci d'être avec nous. On va d'abord démarrer avec le cas Andrew, le frère du roi Charles III, donc dans les filets des dossiers Epstein, soupçonné d'avoir transmis à Jeffrey Epstein des documents. Pour quelle contrepartie? C'est la question qu'on se pose en direct de Londres. Laura Calmus pour BFM TV. Quel effet sur le peuple anglais lorsque l'ex-prince Andrew est placé en garde à vue? Est-ce que ça signifie que c'est la fin de l'impunité? Alors, on retrouvera Laura Calmus dans quelques instants. Je voulais vous demander, à notre équivalent en français, lorsque l'ex-prince Andrew est mis en garde à vue, interrogé pendant 10 heures, qu'est-ce que serait l'équivalent chez nous en France? On a du mal à trouver. C'est une bombe.
Vous auriez dû faire ça avec toute la classe de l'époque Mitterrand, d'ailleurs. Peut-être qu'ils vont y passer maintenant.
Quel effet sur le peuple britannique, selon vous?
Nous avons une éthique protestante qui va du travail jusqu'aux mœurs, qui implique que chaque personne qui a fauté va direct dans l'enfer. Donc, quelque part, Andrew, de toute évidence, est coupable d'insouciance ou de bêtises, voire de la haute trahison. Donc, quoi qu'il arrive, on souhaite que Andrew soit écarté définitivement de ses fonctions royales.
Mais qu'est-ce que ça fait? Le peuple britannique est très attaché à la monarchie. Est-ce qu'il savait d'une manière ou d'une autre que les jours de l'ex-prince Andrew étaient déjà comptés? Comment est-ce qu'il...
Mais vous savez, depuis 2011, il a été démissionné de son rôle au commissaire au commerce. Et depuis 2019, depuis son entretien catastrophique à la BBC, où il s'est mis en danger tout seul comme un imbécile. Absolument. Vraiment comme un homme naïf et inconséquent, encore une fois. Et il est fini. Depuis 2019, même sa propre mère a dit « Andrew, mon petit, tu ne feras plus rien pour la famille royale ». Depuis 2022, Charles a enlevé son nom, son titre, ses sous, ses logements. Et il a terminé tout récemment dans une cellule.
Andrew, il a quand même été 7-8 heures en garde à vue, c'est ça? Ou entendu, c'est pas si on dit 7-8 heures, c'est quand même pas beaucoup.
11 heures,
oui, c'est pas beaucoup quand même, pour toutes les questions qu'on doit avoir à lui poser. Oui. Il est toujours logé, d'après ce que j'ai entendu, je suis pas un spécialiste, mais dans l'enceinte d'un domaine qui appartient à la couronne.
Non, faux. Il a été muté de Windsor, qui appartient à l'État, à la couronne, à Sandringham, qui est un domaine privé qui appartient à Charles. Et donc Charles loge et paye son petit frère.
Oui, donc quand même une ancienne ferme, c'est ça, qui a
une
été aménagée.
Ferme qui devait être la maison de retraite du prince Philippe.
Donc il est quand même un peu protégé, non? On pourrait lui dire vous quittez la famille royale, vous quittez le domaine ou tout ce qui appartient.
Tout le problème c'est comme pour les déchets radioactifs. il faut les mettre quelque part. Donc, il faut empêcher cet homme d'écrire ses mémoires. Il faut empêcher cet homme de prendre la parole en public. Il faut empêcher Foggy de faire la même chose. Donc, quelque part, nous avons quelques petits soucis à régler.
Alors, on va rejoindre Laura Calmus parce qu'on l'avait perdue et on l'a retrouvée en direct de Londres. Quel effet sur le peuple anglais, Laura, quand l'ex-prince Andrew est interrogé pendant plus de 11 heures? Est-ce que c'est la fin de l'impunité? C'est ce que je vous demandais tout à l'heure.
Eh bien, ça a été beaucoup dit ces derniers jours. Personne n'est au-dessus de la loi. Le Premier ministre Keir Starmer l'a dit. Les Britanniques l'ont également répété. Il y a eu aussi ce communiqué très rare du roi Charles III qui a dit que la loi devait suivre son cours. Et ça dénote avec ce qu'on a vu ces dernières années. Rappelez-vous, en 2022, il y a eu cet accord financier entre Virginia Giuffre et Andrew. 12 millions de livres, soit 13 millions d'euros payés en partie, on le sait désormais, par la reine Elisabeth. Alors, c'était une façon de refermer discrètement l'affaire. Cette fois-ci, les images ont littéralement choqué les Britanniques. Il y a eu cette garde à vue, ces arrestations également, ces perquisitions qui vont continuer d'ailleurs jusqu'à demain à Royal Lodge. Alors on se dit qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'il n'y a plus donc cette impunité avec, regardez, la une du Daily Mirror qui va encore plus loin, qui se demande who knew what, qui savait quoi, car en fait, eh bien, il y a tout un système qui est remis en question. On se demande s'il n'y avait pas eu aussi une conspiration du silence.
Merci beaucoup, Laura Calmus, en direct de Londres. Il y a effectivement des questions qui se posent en termes de complicité. Vincent Ventigam, vous êtes avec nous parce que vous avez épluché aussi le dossier Brunel, le dossier français. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le dossier Brunel, il y a le nom du prince Andrew.
Oui, effectivement, le dossier Brunel, pour bien le resituer, c'est le dossier du nom de cet agent de mannequin qui a été lui aussi pris dans les filets de l'affaire Epstein, qui avait été mis en examen pour viol, soupçonné d'être l'un des rabatteurs de jeunes femmes auprès de Jeffrey Epstein. Il s'est suicidé dans sa cellule de la prison de la Santé en 2022, donc il ne peut plus être poursuivi aujourd'hui. Il y a une extinction de l'action publique, mais quand on regarde le dossier, c'est vrai qu'on se rend compte que le nom d'Andrew apparaît. Il apparaît notamment dans les déclarations du majordome de Jeffrey Epstein, puisque Jeffrey Epstein avait un somptueux appartement 22 avenue Foch, ici à Paris, et le majordome a été interrogé. Et dans le cadre de cette audition, il dit « bah oui, le prince Andrew, il est venu deux fois à Paris, mm-hmm. en tout cas le souvenir qu'il en a, c'est celui-là. Mm-hmm. Il se souvient notamment l'avoir conduit sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, de l'avoir attendu pendant 2 heures. » Précise-t-il, Jeffrey Epstein n'était pas à Paris. C'est bien pour montrer que c'est une affaire tentaculaire. Là, on parle de l'affaire Andrew, du prince Andrew. Les déflagrations de l'affaire Epstein, elles portent sur deux volets finalement. On a tout le volet pédocriminel et on a le volet transmission d'informations, parce que c'est ce qui concerne aussi Andrew et c'est la raison pour laquelle il a été placé en garde à vue cette semaine. Donc on le voit, c'est une déflagration quasi mondiale.
Alors, la justice française entre à son tour dans le dossier. Sabina Eklasova, vous allez nous éclairer. Que sait-on aujourd'hui ? Qu'a décidé le parquet de Paris ? On a attendu longtemps la communication du parquet. Elle est arrivée et vous allez nous la détailler.
Oui, alors après la publication de documents par les autorités américaines, le parquet de Paris ouvre 2 enquêtes cadres. L'une pour traite des êtres humains et l'autre pour blanchiment et infraction financière. 5 magistrats référents sont désignés. 2 issus des sections financières et 3 spécialisés dans les infractions sexuelles. Leur rôle, centraliser les plaintes et signalements liés à la galaxie Epstein et coordonner les investigations.
Alors, pourquoi est-ce que la justice revient aujourd'hui sur le dossier Brunel ? Et surtout, à ce stade, le parquet va détailler 3 affaires précises qui sont déjà entre leurs mains.
Oui, alors d'abord le 10 février, un signalement du ministère des Affaires étrangères, le nom de Fabrice Hédan, secrétaire des Affaires étrangères principales, apparaît dans les documents américains. Le 11 février 2026, une femme de nationalité suédoise dépose plainte contre Daniel Siad, recruteur de mannequins. Elle l'accuse de viol pour des faits qui auraient été commis en France en 1990. Et enfin, donc, le 12 février, le parquet de Paris est saisi d'une plainte visant le chef d'orchestre Frédéric Chasselin pour des faits présumés d'harcèlement sexuel datant de 2016.
Merci Sabina. Alors Vincent, le parquet réexamine le volet français ouvert en 2019, vous avez dit, par Jean-Luc Brunel. Je me tourne vers vous aussi, Maître Darmon. C'est assez inédit quand même que le parquet décide de réexaminer, de rouvrir, de réanalyser. Est-ce que vous avez déjà vu ce cas de figure ?
Non, bon, ça faisait longtemps qu'on attendait que le parquet communique enfin sur le volet Epstein en France. Enfin, on a eu ces annonces de la Première République mercredi matin.
C'est ça.
C'est à mon sens inédit d'avoir 5 magistrats référents, donc je suppose c'est des procureurs de la République, qui seront en charge de ce dossier, donc à la fois financier et pédocriminel. C'est oui, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la justice.
C'est ce que vous demandiez depuis 2019.
C'est depuis 2019 qu'on attend que le parquet se saisisse véritablement de ce dossier. Donc c'est une bonne chose, et je pense que c'est un appel du pied pour les victimes. C'est ce que disait la procureure de la République aussi. C'est maintenant, nous vous écoutons, nous vous attendons, et espérons ensuite que la parole puisse enfin se libérer. Alors,
les plus grands magistrats, enfin les plus grands services, en tout cas de la magistrature, et puis aussi de la police, puisque tous les offices quasiment, la cybercriminalité, les victimes, tout le monde est saisi.
Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que la procureure, lorsqu'elle a donné cette interview à France Info mercredi matin de mémoire, elle l'a bien précisé aussi, que le but c'est aussi de recueillir la parole des victimes à l'occasion peut-être d'un traumatisme qui s'est ravivé avec la divulgation des documents, en disant peut-être que certaines victimes, voilà, pour des raisons qui leur sont propres, ne voulaient pas témoigner en 2019 quand le premier dossier est arrivé. Peut-être qu'aujourd'hui le souhaiteront-elles.
Est-ce que vous avez, vous, depuis, des remontées via votre cabinet de jeunes femmes qui aimeraient témoigner dans ce sillage des dossiers Epstein ?
Ben, c'est un peu tôt depuis mercredi, mais on avait déjà eu avant, depuis la transmission des documents par les États-Unis, des familles qui nous ont contactés ou des victimes. Nous, la première chose qu'on leur dit, c'est de toute façon d'aller déposer plainte.
Bien sûr.
Parce qu'on n'est pas certain de la véracité des propos qui nous sont rapportés. Mm-hmm. Est-ce que c'est des personnes qui ont entendu des choses à gauche, à droite et qui évoquent certains faits ? Nous, le réflexe premier, de toute façon, c'est de déposer plainte au parquet, soit d'aller déposer plainte auprès des services de police directement, soit rédiger un courrier à l'attention du parquet. Et ensuite, ils verront quelle enquête peut être menée. Mais je veux revenir sur un point important, c'est le communiqué de presse du parquet, avant d'ailleurs que la procure parle sur France Info, c'était une réanalyse intégrale du dossier Brunet.
Vous avez raison, tous les
chaque
mots.
Chaque mot compte.
Sachant qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce dossier, on ne peut pas dire non plus que rien n'a été fait.
Il y a eu des perquisitions, il y a eu des saisies, il y a eu des choses.
Mais c'est quand même fou de dire qu'on a eu une instruction qui a été ouverte pendant de 2019 à 2023, lors d'un non-lieu, c'est juillet 2023, de se dire que le parquet va récupérer un dossier pour le réanalyser.
Donc ça, vous aviez jamais vu.
J'avais jamais vu ça avant.
Ça c'est. Et est-ce que vous savez ce que sont devenus les fameux scellés? On parle de la perquisition, Vincent. Vous nous en avez parlé beaucoup à l'antenne ici à BFM TV. Donc on trouve au cours de la perquisition un CD-ROM,
des
clés USB, on saisit des ordinateurs. Il y a 62 noms de mémoire de jeunes femmes.
Et puis surtout, il y a un tout petit échantillon des emails de Jeffrey Epstein.
Et donc, pendant tout ce temps-là, on dit voilà, fin du dossier Brunel. Est-ce que tout ça, ça a été détruit?
Il me semble que les scellés existent encore.
Vous n'en êtes pas sûr.
Avec des confrères, on en a parlé, et il me semble que les scellés existent encore. Ce serait une aberration de dire qu'ils étaient détruits. Compte tenu de la gravité des faits qui sont.
Non, mais donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir les réutiliser et les repasser à ce tamis-là.
Oui, mais enfin, il n'y a plus d'action publique, mais je veux dire, le dossier, il existe encore physiquement, numériquement.
Imaginez que le greffier dise, voilà, il n'y a plus d'action publique, les scellés, vous les détruisez, Vincent.
Oui, mais ce dossier, comme je disais, beaucoup de choses ont quand même été faites à l'époque de cette enquête, entre 2019 et 2022. Il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été apportés, puisque Jean-Luc Brunel a été visé par différentes plaintes, une dizaine au total, la plupart étaient prescrites, mais on le rappelle, quand il s'est donné la mort, il était mis en examen pour des viols sur deux jeunes femmes et pour le harcèlement sexuel sur une troisième, donc ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose, il y avait des auditions, il y avait des témoignages, il y a des investigations, c'est aussi tout ça qui va être réanalysé. Et pourquoi ça va être réanalysé? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est parce que on se rend compte avec la divulgation récente des 3 millions de documents par les autorités américaines que peut-être il y a des noms qui figurent dans ce dossier sur lesquels on s'était pas forcément arrêté en 2019-2022, mais là, avec les nouveaux documents, on va peut-être essayer de faire des liens.
Des résonances.
En tout cas, la procureure, elle dit, ça va être un travail titanesque, et ça, on s'en rend bien compte.
C'est sûr.
Sans garantie aucune d'un résultat à la fin, mais elle annonce les moyens conséquents pour analyser tout.
Alors, avec nous en ligne, Arnaud Wajdik, j'espère que je prononce bien votre nom, vous êtes journaliste à Ouest France, coordinateur des enquêtes sur Epstein pour votre journal. On découvre, par exemple, grâce à vous, que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell voulaient s'offrir un château en France. Alors, expliquez-nous, que pouvez-vous nous dire de ce château de la Villette et de ses envies de châtelain, si je puis dire?
On est juste après la sortie du film Da Vinci Code en mai 2006. Epstein a l'air fasciné par les châteaux. Il veut s'offrir une propriété en France, effectivement. Et il repère ce domaine de 77 hectares situé à l'abri des regards à 1 heure de Paris. Ils font une offre, 5 millions de dollars. Ils visitent les lieux, ils organisent un dîner. On a retrouvé même des photos assez surréalistes et inédites où on les voit s'amuser dans la chapelle du château ou même inspecter les dépendances. Et puis, il va exiger l'inventaire de tout ce qui se trouve dans le château. Il y a même une Bentley qui se trouve dans le garage. Visiblement, à cette époque-là, vu le nombre de mails qui existent autour du mot château et castle, il veut investir dans un château en France et on lui fait plusieurs propositions. Cette proposition justement de ce château dont vous parlez n'a pas pu se faire en raison d'un petit souci de finances et de montants proposés, mais il va en chercher d'autres. Il y a même un contact très influent comme Marianne de Rothschild qui va lui proposer des domaines en Seine-et-Marne. Et puis, peu de temps après aussi, il va même faire une offre pour l'hôtel Lambert qui est situé sur l'île Saint-Louis à 25 minutes du siège de BFM TV. Il voulait y fonder un institut mathématique pour sans doute réunir des cercles scientifiques et intellectuels en France et peut-être aussi se racheter quelque part une conduite à un moment donné où il allait subir des ennuis judiciaires à 1 an et demi ou 2 ans après.
En tout cas, il avait des envies d'acquisition française, c'est ce qu'on comprend avec vous. Quand vous épluchez tous ces dossiers Epstein, et c'est un travail colossal et on le sait, vous découvrez aussi la mission d'une étudiante russe en droit à la Sorbonne qui, écrivez-vous, recrutait des femmes pour Jeffrey Epstein à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce profil ?
Oui, on est à la période 2012-2013, c'est une étudiante modèle, elle a 21 ans, elle est en droit à la Sorbonne, comme vous le disiez, c'est aussi une ancienne championne olympique de snowboard. Mais de l'autre côté, les mails révèlent qu'elle est devenue le radar d'Epstein à Paris, elle s'installe avenue Foch, elle commence à lui sourcer des profils, lui-même, elle lui écrit texto dans les mails, hein, je peux te trouver de belles femmes à Paris. Et puis il y a cette phrase qui fait un petit peu froid dans le dos, parfois je pense que je suis ta Ghislaine Maxwell à Paris, avec un petit haha juste à la fin, qui finalement montre toute l'ambiguïté de l'affaire, une forme de légèreté apparente sur un système de recrutement qui en réalité est d'une violence absolue. Elle l'appelle cher professeur, elle est prête à tout pour payer ses études, même à devenir escort girl, hein, elle lui dit en ces mots. Bref, elle contribue, parmi tant d'autres sans doute, hein, à faire de Paris une véritable plaque tournante, une sorte de vivier entre guillemets pour alimenter le réseau Epstein avec des étudiantes françaises ou des mannequins russes et même d'autres femmes qui viennent de pays de l'Est.
Merci beaucoup. C'est ça qui nous intéresse, c'est Paris, cette plateforme, cette capitale du vice, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous entendez ce genre d'informations ? Il faut d'abord factuellement rappeler que Jeffrey Epstein, il passait un certain nombre de temps à Paris, dans cet appartement, et que visiblement, il s'y passait des choses.
C'est l'énorme araignée au cœur d'une toile d'araignée qui touche tout le monde, les têtes couronnées, les gouvernements, même quelques familles royales. Pour nous, en Angleterre, nous avons toujours des soucis par rapport à ce Keir Starmer et Peter Mandelson, le fameux ambassadeur que Keir Starmer a nommé, tout en sachant qu'il était proche d'Epstein, etc. Et nous avons le problème de Fergie, nous avons le problème d'Andrew. Donc nous serons blancs comme neige, comme dirait l'ami Jack Lang, exactement, quand nous serons débarrassés de ces 3-4. Mais franchement, l'influence de cet homme est absolument...
Tentaculaire.
Extraordinaire.
C'est intéressant là ce que l'interview de notre confrère de West France. Absolument. Sur cette histoire de château, cette histoire, parce que ça vient corroborer ce qu'on dit depuis des semaines, ça vient ajouter un nouvel élément, c'est qu'en fait Jeffrey Epstein, son histoire, c'est d'avoir un réseau pour avoir des jeunes femmes, mais pour avoir aussi de l'argent pour investir. Ce qu'il cherche, c'est avoir de l'information. Où est-ce que je dois investir? Où est-ce que je peux acheter un château? Où est-ce que je peux trouver tel profil?
Non, mais c'est surtout que c'est fait avec des contreparties. Il y a forcément des deals.
C'est toujours la question. Alors, ce qui est intéressant dans le dossier Brunel, par ailleurs, et c'est noté par les enquêteurs, à aucun moment, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'échanges de courriels, à aucun moment, il n'est fait état de relations sexuelles ou de transmission d'informations sur des jeunes filles dans le but d'avoir des relations sexuelles. Mais les enquêteurs notent que les désidérata, je reprends leur terme, de chacun des deux, semblent bien connus de chacun des deux.
Et Vincent, on a vraiment l'impression, là, il y a la France d'en haut, la France d'en bas, quoi. Ces gens-là sont des intouchables. Un prince, un ministre, Jack Lang, des personnalités qui sont insoupçonnables.
Et à la fois des jeunes filles
Est-ce que ça leur a permis finalement de traverser toutes ces tempêtes, plus tranquillement, sans être inquiétés?
Oui, ça c'est sûr, mais ils sont plus intouchables maintenant.
C'est la fin de l'impunité.
Et c'est quand même quelque chose.
Et puis de l'autre côté, il y a des jeunes femmes, rappelons-le, qui sont souvent dans le besoin, désemparées et qui ont été dans les griffes de tous ces affreux personnages.
Tous ces hommes-là puissants, effectivement, ont réussi à cibler des jeunes femmes, parfois très jeunes, qui étaient vulnérables.
Exactement.
Et qui en fait étaient sous emprise de ces hommes parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'ils avaient un réseau, parce qu'ils avaient du pouvoir. Et forcément, elles allaient vers eux et c'est là que le phénomène d'emprise s'exerce le plus.
Un exemple, celui de Rosa. Jean-Luc Brunel va la récupérer en Ouzbékistan en 2008 et lui dit: je vais te mettre au service de Jeffrey Epstein parce que tes parents n'ont que 100 dollars pour faire vivre toute la famille. Elle part aux États-Unis, elle se fait abuser par Jeffrey Epstein qui demande régulièrement à la faire venir avec Jean-Luc Brunel. C'est ça aussi. C'est vrai qu'on parle des intouchables, mais il ne faut pas oublier les victimes qui, elles, sont bien souvent des personnes fragiles.
Merci à tous de vos lumières françaises, britanniques, de vos éclairages.